La Bassure en fête, événement dédié à la nature et à l'environnement à Achicourt. Cette année, le thème, c'était « De la terre à l'assiette ». Un reportage réalisé sur place. On entendra notamment des interviews d'intervenants qui présentent leur stand, entre autres l'ADAV, l'Association du droit au vélo, une conteuse pour petits et grands, Marion Cailleret, Anne-Ophélie Louis qui proposait un stand balade et écriture sur la nature, Romain et Fabien qui évoquent le retour à la préhistoire pour fabriquer de la cervoise mais aussi de la vannerie, et on terminera par Eric de la MAP du Cogeul ainsi que Laetitia maraîchère pour parler de consommation bio, et tout cela agrémenté par une illustration sonore de l'harmonie d'Achicourt.
Moi, on représente l'ADAV ici sur Achicourt. En fait, l'ADAV, c'est la grosse association régionale avec, je pense qu'on est à 3000 adhérents. Et donc, il y a différentes antennes. Il y a une antenne à Arras et puis il y a une antenne aussi à Achicourt. Donc, moi, je suis correspondant local sur Achicourt. Et donc là, on a un stand et on a co-animé une balade vélo. On a eu une trentaine de personnes avec deux parcours, un parcours de 10 km et un parcours plus réduit. Et en accompagnant, on était 8 personnes, donc ce qui était sympathique.
Sur votre stand, il y a plein de choses. Hein. D'abord, j'ai vu le panneau là, la sécurité pour les enfants. Comment faire pour que les enfants ne se plantent pas ? Message aux parents, il est important que vous accompagniez vos enfants à vélo à leur début pour leur apprendre les bons comportements sur la route.
Il y a plusieurs biais. Alors nous, on fait de la formation dans différentes actions sur Arras et sur la communauté urbaine avec des panneaux pédagogiques qui sont, je pense, relativement bien faits. Après, il y a aussi les actions des communes. Je sais que sur Achicourt, le service sport de la commune se met en lien avec les écoles. Ils font beaucoup d'animations sur le thème de la sécurité vélo. En particulier à Achicourt, on a ce qu'on appelle un petit city, enfin un petit parcours vélo sur Macadam avec plein de panneaux qui est du côté du pont Gondry. Il y en a deux autres, je crois, sur la communauté urbaine. Et ça aussi, c'est vraiment efficace pour apprendre les bons comportements aux enfants.
Est-ce que vous avez eu du monde justement qui est passé devant votre stand et qu'est-ce qu'ils vous demandent ? C'est quoi les questions qu'ils vous posent, etc.
Bah, les gens sont intéressés, déjà les pratiquants du vélo, hein, de tout âge. Après, les gens sont intéressés aussi par les ateliers vélo de la DAV. Il y en a deux sur la communauté urbaine, un à Léon Blum, à Arras, et un à Saint-Laurent-Blangy. Donc les gens sont intéressés soit parce que éventuellement c'est des réparations, des petites réparations où il leur manque des pièces, ou alors pour des dons, parce qu'ils peuvent aussi donner les vélos et puis après ils sont restaurés par l'atelier et puis après revendus au profit de l'association ou donnés. Par exemple, aujourd'hui on avait à la vente proposé 8 vélos, des vélos enfants. Ceux qui ne seront pas vendus, eh bien, par accord, ils seront donnés par l'association à la commune d'Achicourt, éventuellement pour les écoles, pour des enfants qui n'auraient pas de vélo, pour certaines activités communes.
Alors je vois qu'il y a une affiche aussi éclaireur, les éclaireurs du Tour 2025. Vous pouvez m'expliquer un petit peu ?
Alors ça, c'est passionnant. Ça, c'est... L'ADAV, en fait, a été contactée par l'EHPAD d'Achicourt, parce que l'EHPAD d'Achicourt, en association avec d'autres EHPAD du Pas-de-Calais, vont faire des actions liées au vélo. Ça semble surprenant parce que EHPAD vélo, ça semble pas compatible, mais oui. Donc en fait, ça va être des actions qui, surtout sur le mois de juin, mais ça va durer jusqu'à octobre, je crois. Donc il y aura quoi ? En particulier, ça va pédaler. Dans les EHPAD, ça va pédaler. Donc il y a à la fois certains résidents EHPAD d'Achicourt qui sont encore en capacité, qui vont pédaler, et les kilomètres, pédaler sur des vélos d'appartements, enfin des vélos, voilà. Et les kilomètres vont être comptabilisés. Et puis, les familles pourront aussi participer pour faire monter le compteur. Et même des habitants, nous on va essayer de s'y associer, y aller pour essayer de faire monter le compteur. Et donc ce sont les référents sportifs dans les EHPAD qui vont faire différentes actions. Il y a également une sortie prévue. Alors ça semble étonnant, mais oui. L'EHPAD d'Achicourt va louer quelques vélos adaptés, deux ou trois vélos adaptés. Et il y aura le projet, ça serait qu'il y ait une sortie avec des résidents capables de le faire, accompagnés par des personnes valides, entre guillemets. Et il y aura peut-être une sortie en juin, voilà, dans ce cadre-là, en partenariat en plus avec une... avec des jeunes enfants. Donc, en tout cas, il y a des projets intéressants.
Ça se passe du 5 juin au 4 juillet.
Voilà, 5 juin et 4 juillet, avec quelques actions qui se prolongeront après le reste de l'année.
Bon, c'est idiot l'histoire du solo parce que je suis toute seule. Je sais en faire qu'une, mais je sais la faire plus vite.
Ça tombe bien, du coup vous proposez un concert, hein, c'est ça, pour les enfants, il y en avait plein là, il y a 5 minutes.
C'est un spectacle de petites histoires et de comptines pour les tout-petits et leurs familles. Alors je suis Marion Cailleret, je suis conteuse depuis presque 30 ans maintenant, et je raconte beaucoup pour les tout-petits. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un public mixte, parce qu'il y a à la fois les bébés et il y a les parents, donc j'essaye d'avoir un truc à double sens en fait, pour que les parents ne s'ennuient pas.
Alors donc il y a des contes et de la musique.
Tout à fait, il y a donc des petites histoires qui sont des histoires, certaines sont traditionnelles, d'autres sont les miennes, et il y a un peu de harpe et un peu d'accordéon.
Et je vois qu'il y a quand même pas mal de choses assez intéressantes que vous avez créées vous-même ou...
Oui, tout à fait, j'aime bien travailler avec des petits décors parce que ça m'amuse et que ça, je trouve que ça amène des choses au récit, ça amène une illustration en fait que je trouve intéressante. J'aime bien la manipulation aussi, ça m'amuse beaucoup.
Qu'est-ce que tu nous proposes en atelier, donc avec, y a plein de choses. Tu peux nous dire un petit peu ce qui se passe?
Alors moi, c'est Ophélie, le punch et la plume. Je propose un nature-écriture, donc dans une nature donnée, qu'on va choisir en groupe avec un démarrage à la fête de la Bassure. Un court moment, c'est une heure, où je fais écrire ou pas, c'est une option, dans la nature, au cœur de la nature, avec la nature, pour la nature. Parce que l'écriture et la nature, ce sont deux sources qui peuvent se compléter pour booster notre créativité, nous oxygéner et nous faire voir les choses autrement.
Donc, voilà. J'imagine que tu as eu du public.
Ça va arriver.
Est-ce que c'est plutôt des enfants? Est-ce que c'est plutôt des adultes ou...
Eh bien, c'est tout public, même si on ne sait pas écrire, comme dit Cocteau. L'écriture, c'est du dessin noué. Si on a envie, on s'exprime comme on peut. C'est un langage, donc on se fait aider. Donc si on a 3 ans, par sa mère, ou on influence sa mère sur une idée, parce que les enfants sont très réceptifs finalement. Donc voilà, à l'animateur de savoir réguler tout ça. Je suis plutôt dans cet esprit ouvert.
Bonjour à toutes et à tous, Romain Plichon, je suis responsable de la médiation culturelle pour l'établissement public Somme Patrimoine qui gère les sites de Samara, le parc archéologique et naturel, le centre de recherche de Ribemont-sur-Ancre et la citadelle de Doulan.
Et là, je vois que tu prépares une sorte de compoté comme tu viens de me dire, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est?
Ouais, je suis un peu en train de faire de la magie. Bon, c'est une magie très pragmatique, hein, c'est-à-dire que j'ai une poterie comme au néolithique, comme il y a plus de 5000 ans avant notre ère, que j'ai rapprochée progressivement du feu depuis ce matin pour qu'elle monte en température. D'accord. L'eau a fini par bouillir et j'y ai mis à l'intérieur du pain, des céréales, des choses bien torréfiées, bien grillées préalablement sur le charbon de bois parce qu'on a eu le droit de faire un feu à la fête de la brassure pour cuisiner comme à la préhistoire. Et progressivement, ben, on est en train de fabriquer une soupe de céréales qui a des pouvoirs magiques parce qu'elle va créer de la fermentation et devenir une cervoise comme à l'époque.
Ah ouais, donc du coup, ça se consomme en boisson ou...
Oui, effectivement. En fait, le fait de faire des bouillies de céréales...
ça va. La cervoise, c'est quand même...
C'est pas encore la même chose. Ouais. On peut faire des bouillies de céréales, on peut être sur des sortes de porridge, hein, d'une certaine manière. Ça, on le mange beaucoup à l'époque, a priori. Cependant, si on laisse travailler les céréales et si on laisse les levures faire leur travail, si on y rajoute un petit peu de fruits, là, j'étais en train de découper des dattes avec mon couteau en cuivre, si on y rajoute un petit peu de fruits pour rééquilibrer un petit peu l'acidité de tout ça, que l'on filtre ensuite, eh ben, on obtient ce qui est ni plus ni moins que l'ancêtre de la bière. Et c'est ce qu'on est en train de fabriquer ici aujourd'hui. Chicourt.
Alors, il y a quand même des gens qui sont passés devant votre stand. Alors, qu'est-ce qu'ils vous posent comme question? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Comment vous conversez avec eux?
Bah, en fait, c'est ce qui est intéressant. C'est qu'en parlant de cervoise, en parlant de cuisine, en parlant de vannerie, comme Fabien est en train de le faire, ouais, et ben finalement, on ouvre plein de sujets, on ouvre plein de discussions. On parle d'archéologie, on parle du monde, on parle d'économie, on parle de soi, on parle du territoire, on parle des hommes et des femmes préhistoriques. Donc, finalement, il y a autant de questions qu'il y a de personnes. Et puis, bah, nous, on a des histoires à raconter. Donc, on sent qu'on est écouter avec des grands yeux, mais il faut dire aussi, là, vos auditeurs ne le voient pas, mais on est habillé de manière particulière. Moi, j'ai un grand manteau en cuir et puis une tenue de lin.
Des sandales un peu spéciales. Hein.
Et des chaussures, effectivement, en cuir en étant à pieds nus en dessous, parce que ben, l'idée, c'est d'essayer de s'habiller, puis finalement de refabriquer un décor, des objets, des goûts, des odeurs, comme à l'époque. Ça, c'est notre travail de médiateur culturel.
Vous occupez toujours sur le même stand, hein, de la vannerie.
Tout à fait, la vannerie préhistorique de préférence, mais bon, elle rejoint la vannerie moderne, hein, puisqu'on utilise depuis très très longtemps les mêmes matériaux, c'est-à-dire de l'osier. De l'osier qui vient de l'arbre qu'on appelle le saule. Le saule, l'osier de saule. Et puis là, vous avez différents objets que j'ai fabriqués aussi avec du noisetier notamment. Et puis mon artisanat de prédilection, ça reste la sparterie. Donc c'est un petit peu une vannerie spéciale.
Alors, ouais, il faut expliquer un petit peu. La sparterie, c'est un peu complexe.
Alors la sparterie, c'est une technique qui ne consiste pas à tresser, à tisser les branches comme on le fait dans la vannerie classique avec l'osier, ouais. Mais à coudre. À coudre les herbes. Moi, j'utilise beaucoup du jonc, par exemple, du jonc séché, du fil de lin ou des éclisses de ronces. Donc des éclisses, ce sont des fines languettes de ronces. Qui vont me servir à lier les herbes les unes avec les autres. Et en l'occurrence, bah, j'ai le chapeau que j'ai sur ma tête qui est fait de cette manière.
D'accord.
La ruche que vous avez ici, et puis plein d'autres objets. La petite poche pour cacher les artefacts modernes, par exemple.
Il y a des pierres aussi.
Alors j'ai ici un
Du silex, hein, alors, si je ne me trompe pas.
On est à la préhistoire. Alors le silex, c'est quand même la pierre de prédilection. C'est une pierre très tranchante. Elle n'est pas coupante, elle est tranchante, hein, parce qu'on se coupe, on s'en rend même pas compte. Hein. Donc du silex pour faire toutes sortes d'outils, et aussi un percuteur en silex qui me permet de fabriquer, d'allumer un feu. Donc là, il n'est pas tranchant, il a des bords arrondis, et qui accroche un petit peu l'autre pierre. Cette pierre qui est riche en fer et en soufre, qu'on appelle la marcassite. Et lorsqu'on percute la marcassite avec... un silex, déjà ouais. Ça sent, hein. Ça sent parce qu'elle contient du soufre. Hein,
quand même. Ah ouais.
Et bon, là, il y a un peu trop de lumière, on les voit pas, mais dans une un peu de lorsque la lumière est un peu moins forte, ça produit des étincelles que l'on capture avec de l'amadou émietté. Ouais. Alors l'amadou, c'est une matière qu'on va trouver dans un champignon qui pousse sur sur les arbres morts, les vieilles branches.
C'est ce qui permet d'allumer le feu, en fait.
Et c'est ce qui permet d'allumer le feu, et ça, on en est quasiment certain, puisqu'on a retrouvé tous ces éléments dans les bagages d'un homme préhistorique, le plus célèbre du monde, qu'on appelle Ötzi, qu'on a découvert en 1991. Et Ötzi, il avait tout ça sur lui. Autrefois, on avait toutes sortes d'hypothèses, mais aucune certitude absolue. Hein. Et là, grâce à la découverte d'Ötzi, ben, maintenant, on sait qu'on pouvait allumer un feu comme ça à la préhistoire. Il y a sûrement d'autres méthodes, mais celle-ci, elle est à tester. D'accord. Et Ötzi, il avait tout son matériel dans une petite poche en sparterie Et là, cette petite poche en sparterie est constituée d'écorce de bouleau cousue avec du fil d'ortie. Alors lui, Ozzy, c'était plutôt du fil de tilleul qu'il utilisait, le libère de tilleul. Une autre matière très très résistante hein, qu'on trouve entre le bois et l'écorce de l'arbre. Et là, en l'occurrence, j'ai un fourreau de couteau qui est la réplique du fourreau de couteau d'Ozzy.
D'accord.
En libère de tilleul.
D'accord, donc il mettait son couteau là-dedans.
Il mettait son couteau en silex dedans, oui.
Si on veut vous contacter, vous retrouver et tout, vos, bah, tout ce que vous faites, etc., on fait comment ?
Ah ben, vous me retrouvez à Samara. À Samara, c'est entre, qui se trouve pas loin d'Amiens, dans la Somme.
Les gens qui viennent vous voir, qu'est-ce qu'ils vous posent comme question quand vous leur expliquez un peu tout ça ? Est-ce que ça les intéresse, ça les intrigue ou...
Alors, ce qui les intrigue le plus, c'est le temps qu'on met pour fabriquer tous les objets. Parce que tout est fait avec des matériaux, ouais, c'est fait à la main, avec des matériaux qu'on trouve dans notre environnement. Et aujourd'hui, on n'est plus du tout habitué à ça. Il faut que tout aille très vite, on appuie sur un bouton et tout tombe du ciel. Et à l'époque, ben, on n'a pas ce bouton. Hein, et donc, il faut fabriquer les choses soi-même. Et on n'a pas le choix, donc on les fait. Donc la patience, on l'a de toute manière.
Bonjour, je suis David Markowski, je suis un des membres de l'AMAP du Cogel, donc l'association pour le maintien de l'agriculture paysanne du Cogel, comme son nom l'indique, c'est du local. C'est la seule AMAP de la communauté urbaine d'Arras. Donc je m'implique avec les autres AMAPiens dans on va dire un élan qui est de consommer autrement et de vivre autrement le rapport aux produits de la terre. On soutient une maraîchère qui s'appelle Laetitia Braiel, qui a un maraîchage qui s'appelle l'Utopie Maraîchère à Bois-le-Saint-Marc. Et la MAP, le principe, c'est d'être solidaire d'une maraîchère, que les conditions météorologiques soient favorables ou défavorables. On lui assure un revenu constant toute l'année. On s'engage auprès d'elle à l'accompagner aussi bien financièrement avec un revenu constant et aussi mieux, bah, concrètement, lui donnant des petits coups de main sur le terrain quand c'est nécessaire. Et puis, on bénéficie de ses parts de récolte.
Alors, on voit que sur votre stand, il y a des légumes, hein, il y a des choses que je ne connais pas. Alors, je ne sais pas ce que c'est cette espèce de truc un peu violet là.
Alors on a des choux cales, des choux raves, alors des choux sous toutes ses formes, des tomates sous toutes leurs formes, et on redécouvre aussi des légumes qu'on méconnaissait ou qu'on avait oublié, et notamment on
va les topinambours.
C'est arrivé, oui, topinambours, feuilles de blette, épinards d'une fraîcheur extraordinaire. Alors évidemment c'est du bio de chez bio, c'est-à-dire même de la bouillie bordelaise, elle n'en met pas à la maraîchère. Donc c'est vraiment quelque chose d'absolument sans aucun traitement.
C'est un peu compliqué. Là, en ce moment, les agriculteurs de la FNSEA manifestent pas mal pour justement continuer à mettre des pesticides. C'est compliqué et en même temps, je me pose une question, comment ils font en bio pour justement pas utiliser de pesticides ? Au moins, pas de pesticides chimiques, mais tout au moins naturels, pour pouvoir arriver à faire des récoltes.
Alors Laetitia, non seulement elle n'utilise pas de pesticides, mais elle n'est même pas mécanisée. Donc c'est du temps, c'est de l'adresse et c'est de la vigueur qui fait qu'on a des produits sains sans aucun ajout. Et puis de toute façon, elle se conforme aussi, je veux dire, on a le label bio, enfin elle a le label bio, il y a un cahier des charges précis et une analyse des sols, donc je veux dire, on ne triche pas, quoi. C'est vraiment, et en plus nous, AMAPien, on est là aussi pour le constater de visu, puisqu'on est aussi sur le terrain de temps en temps pour donner un coup de main. Le concret au service du bon, on le voit tous les jours.
Puis, est-ce que y a des ateliers qui sont proposés aussi auprès du jeune public pour les sensibiliser, etc.
Alors, des jeunes et des moins jeunes, je vais donner un exemple, parce qu'on pense souvent à sensibiliser les tout-petits, et c'est bien de le faire, mais il y a une action que j'aimerais relater, c'est une action avec des étudiants de licence management des établissements de gastronomie et des arts de la table, donc des futurs managers de restaurants, voire même des futurs professeurs dans hôtellerie-restauration, qui sont venus sur le terrain, qui ont façonné un cocktail à base de produits, notamment de betteraves rouges, qui étaient produits sur le terrain, et qui ont vu la production au maraîchage on ne peut plus traditionnel en opération, et qui ont valorisé aussi sur place, à travers de ces produits, des recettes jusqu'à des cocktails, comme je l'ai évoqué il y a un instant.
Eh ben, je vais me tourner vers Laetitia alors du coup. Comment vous faites en culture bio en n'utilisant pas de pesticides, sachant que en ce moment les agriculteurs de la FNSEA ils sont en train de revendiquer le genre il nous les faut les pesticides. Est-ce que c'est difficile ou pas, ou est-ce que vous trouvez quand même que finalement c'est simple?
Non, je dirais pas simple, mais c'est tout à fait possible. Il y a d'autres solutions, en fait, il y a d'autres alternatives en fait aux pesticides, et surtout pas en rajouter déjà à ce qu'il y a déjà. On sait la pollution en fait que ça peut engendrer sur l'humain, sur les eaux, sur les terres. Et donc plutôt sur les solutions de PNPP, donc les préparations non préoccupantes. Donc moi je travaille beaucoup avec tout ce qui est plantes, en fait des macérations comme le purin d'ortie en fait qui est un peu la base, qui peut servir autant d'engrais que de désherbant. L'idée c'est de travailler vraiment avec la nature.
Et la nature nous le rend bien à chaque fois.
Quand on s'en occupe, oui, effectivement. Ouais. Mon sol est vivant, j'ai de la vie sur mon terrain et c'est grâce à toute cette vie, que ce soit dans le sol, en dehors, on travaille avec et pas contre.
C'est important aussi cette collaboration donc avec les AMAP, etc. Pour vous, en tant que productrice.
C'est un peu l'essentiel en fait de ma volonté en fait de recréer du lien entre les consommateurs et une autre. C'est un autre monde, une alternative en fait à la société de consommation actuelle. C'est aussi reprendre la main en fait sur ce qu'on mange, sur qui produit, comment elle est produite, et puis de connaître aussi tous les enjeux, que ce soit financier, et puis les événements climatiques en fait qu'on peut subir, et de prendre conscience en fait que voilà, qu'il est important en fait de reprendre possession de cet aspect-là de notre vie qui est essentiel et vital.
Et enfin, une question qui me semble logique, et quand les gens ils viennent vous voir sur votre stand, ils vous posent quoi comme question? Ils se disent on va peut-être au supermarché parce que c'est plus simple, etc. Je sais pas.
Oui, il y a toujours ce truc-là. Après, c'est encore une fois, c'est une autre façon de penser, une autre façon de consommer, et puis c'est se réapproprier aussi la saisonnalité. C'est-à-dire qu'effectivement, au supermarché, on trouve de tout le temps. Or, c'est des produits qui viennent de très loin, qui sont parfois très pollués, qui n'ont pas de goût. C'est aussi ça, là, moi je propose, on fait des produits de qualité, ultra frais, puisque c'est cueilli le matin pour la livraison du soir même, et puis sans engrais chimiques et naturels, quoi.
C'était un reportage réalisé lors de la Bassure en fête d'Achicourt sur le thème de la terre à l'assiette et qui s'est déroulé le 29 mai.